C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Oui, la dame est encore absente, elle chasse les œufs et vu l'appétit de ses chats, il y en a au moins pour jusqu'à mercredi, il faut faire sans et pourtant nous ici, ce lundi, on va faire avec. Avec ce 8e titre de champion de France de Paris, enfin validé, dans un quasi anonymat, tant l'ambiance au Parc des Princes hier était inexistante. Match moyen, victoire à leur main et Kylian qui fait le malin. Deuxième triplé de la saison, 30 buts en Ligue 1, pas vu ça pour un Français depuis Jean-Pierre Papin, sacré gamin. Hier soir, comme souvent, il y avait lui, ses 20 ans et les autres. Les autres, ce fut notamment Neymar, de retour, enfin, 90 jours et une élimination en 8e de Ligue des Champions. Plus tard, le Brésilien a rejoué et c'est sans doute pour Thomas Tuchel la meilleure nouvelle de la soirée. Pas sûr que l'on puisse en dire autant de Cavani, toujours plus esselé, boudé, mais dans les tribunes, adulé. Constat partagé, Naïm Moniol ?
Absolument, Olivier Pron, bonjour à vous, bonjour à tous.
La première ligue au programme également avec ce formidable et passionnant mano à mano qui se poursuit entre City et Liverpool. Il y a eux et les autres dans cette première division anglaise. Des poursuivants qui ont tous perdu ou presque. United corrigé notamment à Everton. Il y a aussi la liste des 6 postulants au titre de meilleur joueur de la saison avec Mané mais sans Salah. Choquant, Bruno Constant ?
Absolument pas. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Allez donc. Ça part fort. Mano à mano et tout en Bundesliga. Le Bayern gagne le samedi, Dortmund le dimanche et toujours un point d'écart entre les deux à 4 journées de la fin. Colossal suspense et du coup, ben on a invité le gars à l'ortolari.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Suspense effectivement.
On ne s'énerve pas les grincheux des réseaux sociaux. Et pourquoi pas le titre de la Juve et Ronaldo et pourquoi pas Benzema ? Parce que demain, il en faut partout pour tout le monde. Sinon, il parlera de quoi Hugo Moissonnier, hein, je vous le demande. Donc, demain, il y aura du Benzema, il y aura du Ronaldo, il y aura de la Juve. Tiens, pour la peine, on a invité aussi aujourd'hui Tom Rossi, un nom de pilote moto. Du coup, il connaît pas bien la maison, mais on va vite la franchir.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Laurent Salerno, décidément, travaille le lundi de Pâques. Louis Lafargue aussi. Alors, c'est parti.
Gabi qui a vu Mbappé, il passe du milieu. Et un enchaînement ! Une classe exceptionnelle ! Kylian Mbappé.
Mbappé avec Alves qui va retrouver Kylian Mbappé.
Cette fois, c'est le plat du pied pour Kylian Mbappé. 29 buts maintenant pour lui en Ligue 1.
Lévin Kurzawa est sorti. Neymar Junior rentre sur le terrain. Retour de Neymar. Centre et le but de Kylian Mbappé, le triplé du jeudi français et le 30, Kylian Mbappé, mesdames, messieurs, 30 buts en Ligue 1 à 20 ans.
Laurent Salerno, avec ses petites mains là, il nous ferait passer le match d'hier soir pour un truc de folie, quoi. Comme si on s'était éclaté au Parc des Princes. C'était hier, donc, il y avait lui et les autres. Mbappé était grand, Paris plutôt petit et Monaco, franchement, à côté de la plaque. Ça résume bien?
Ouais, ça résume bien la soirée, parce qu'on a pas vu un grand match de football, mais on a retrouvé au moins Mbappé à son niveau. Et quand on se rappelle de ses déclarations après la défaite de Lille, son absence un peu bizarre contre Nantes, on va dire que c'est celui qui a pris ses responsabilités, qui a vraiment endossé son statut. Il a que 20 ans, bravo à lui de l'avoir fait. Il a marqué un triplé, alors on doute pas de ses qualités de finisseur et de buteur, que ce soit sur un côté ou dans l'axe, mais il a joint la manière à un moment donné où le PSG est dans une situation délicate, donc bravo. Et puis Monaco n'a rien montré de très intéressant et se retrouve finalement 16e à 4 points de la zone rouge, et c'est amplement mérité, donc voilà.
On retiendra le titre. On aurait presque oublié, David Lortolari, qu'il y avait un titre à fêter.
Oui, chacun ses petits intérêts, on a l'impression. Peut-être que Kylian Mbappé poursuit aussi des records, une quête de chiffres individuels. Ça me laisse assez insensible cette victoire du Paris Saint-Germain, effectivement, alors que le titre avait été obtenu avant de jouer. Je peux verser une larme devant une pièce de théâtre, une belle pièce de théâtre, devant un film. on peut pas me taxer d'anti-parisianisme parce qu'il m'est arrivé de participer à des ouvrages sur le PSG, mais alors hier... Moi, ce club, cette saison, ça sonne faux. Ça sonne pas creux parce que il y a quand même un public derrière, il y a quand même une puissance sportive. Mais je suis pas emballé.
Bono.
Non, j'étais beaucoup plus bouleversé par le titre de champion du PAOK Salonique. J'attendais ça depuis 1985.
On s'excuse, on l'a pas mis au programme.
Non, Laurent
Salerno
hein.
S'y est opposé totalement ce matin avec William Fargue.
Non, mais évidemment, mais ils écrasent tellement le championnat, ces Parisiens, qu'on fait forcément la fine bouche et que voilà, même s'ils confortent, ils confirment leur suprématie dans ce championnat, en dehors de la petite parenthèse monégasque en 2017, ils écrasent tellement que c'est difficile de s'en réjouir et de trouver matière à excitation. C'est un peu la même chose pour la Juve en Italie qui enchaîne les championnats. Je crois que c'est 8 titres consécutifs. On est désolé pour eux, mais on va pas s'emballer. Les seuls championnats où il y a du suspense cette année, c'est en Bundesliga et en Première Ligue, quoi. Voilà.
Donc les cas individuels ont supplanté l'aspect collectif au PSG. C'est pas la première saison. C'est que cette année, on s'est beaucoup penché sur le cas Mbappé. Que va-t-il faire du haut de ses 20 ans? Est-ce qu'il va battre X, Y record? Et puis Neymar, il est encore blessé. Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qu'il va faire avec un champion du monde à côté de lui? Puis comment Cavani va cohabiter avec les deux? Puis qu'est-ce que ça va donner machin? Qu'est-ce que ça va donner bidule? On s'est beaucoup intéressé aux individualités, même à Tourelle. Jamais à l'équipe en tant que telle, au collectif en tant que telle, parce que la Ligue 1 c'est trop fort et la Ligue des Champions c'est trop faible.
Et Tom, on a l'impression qu'il est presque anecdotique ce titre, non?
Vous en pensez? Oui, anecdotique. Après, on oublie le début de saison tonitruant du PSG avec déjà un record, 14 matchs d'affilée, 14 victoires. Le précédent record c'était Tottenham en 60-61. On oublie ça, on oublie aussi peut-être qu'il y a d'autres records futurs, notamment les victoires à domicile. Les victoires en championnat, là ils en sont à 27 et ils peuvent obtenir plus de 30 succès en une saison. Et le précédent record c'était déjà le PSG en 2015-2016 et Monaco en 2016-2017.
Voilà. Je comprends tout ce que vous dites et vous avez raison d'évoquer ces chiffres, mais c'est pas qu'on l'oublie, c'est que en réalité c'est normal, c'est logique, parce que les seules équipes qui peuvent à un moment donné concurrencer, pas sur une longue période mais un petit peu, PSG, c'est Monaco, Lyon et Marseille, et les trois, pour des raisons différentes, ont complètement raté leur saison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est Lille qui est deuxième. Je ne critique absolument pas ni le travail de Galtier, ni le rendement de Pépé, Iconé, Bamba, ce que vous voulez. Je dis juste qu'à un moment donné, quand on a Monaco, Lyon et Marseille avec leur puissance financière, leurs effectifs, tout ce qu'ils font depuis un moment, ça devrait être eux. S'ils endossent pas le statut pour talonner le PSG, il y a personne. Donc, tout ce que vous dites est vrai. Il y a eu une grande série en première partie de saison. Il y a eu des records. Il peut encore y en avoir. Mais au final, c'est aussi la grosse performance des uns à côté des échecs des autres.
Et puis, si on fait la fine bouche, c'est aussi parce qu'on reste sur notre fin en Ligue des Champions. C'est qu'encore une fois, ils ont échoué. Encore une fois, ils se sont sortis par une équipe. Ça. En l'occurrence, la Manchester, ils ont vraiment pu les battre. Et donc forcément, la fin de saison, elle est un peu en eau de boudin parce qu'on attend le prochain mercato et puis on attend que ça rattaque
Ce qui fédère, c'est la Coupe d'Europe de toute façon. Absolument, toujours à la grande époque lyonnaise, ce qui a fédéré les gens derrière Lyon, c'était le parcours contre le PSV Eindhoven, contre Brême, contre les victoires contre Munich, contre le Real. C'était pas parce qu'ils mettaient des taux à Bordeaux et Saint-Etienne.
Si on se résume, roi de France, petit marquis d'Europe.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Enfin, grand Marquinhos quand même.
Alors revenons au héros de la soirée, Kylian Mbappé, 20 ans, 30 buts, un record, 30 buts du jamais vu pour un Français depuis JPP, Patator, pour ceux qui s'en souviennent. C'était la saison 89-90, tous n'étaient pas nés, peut-être pas Tom Rossi. Pourtant, Tom, c'est vous qui allez nous dire quoi? Mbappé, sinon c'est quoi d'autre à 20 ans?
À 20 ans et 3 saisons pro, Mbappé c'est une Coupe du Monde, 1 euro des moins de 19 ans, 3 championnats de France d'affilée avec Monaco et le Paris Saint-Germain, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, 84 buts marqué en 144 matchs de club, dont 57 au PSG. Il vient tout juste de dépasser un certain Georges Weah avec 55 buts en 3 saisons. Et puis Mbappé, c'est 12 buts en 30 sélections également.
Tourelle a dit de lui hier, c'est un requin, quand il y a une goutte de sang, chuit, il file pour la gober.
Ça résume assez bien le garçon. On pourrait refaire l'émission et trouver tous les superlatifs, les adjectifs possibles sur Mbappé, sa précocité, son talent, sa maturité, ce qu'on veut. Moi, je pense que le match d'hier résume assez bien. Il a été moins bien comme les autres, on va pas le dédouaner, il a pas été bon devant les buts, il cherchait des fautes, il a un peu râlé, mais au moment où il a fallu endosser le statut et se remettre un petit coup de pied aux fesses, et ben il l'a fait. Il y en a qui l'ont pas fait, qui sont plus vieux, plus expérimentés, qui ont un autre statut. Donc voilà, bravo à lui.
De toute façon, il y a un PSG sans Mbappé et Neymar et un PSG avec les deux stars. Et quand elles sont toutes les deux réunies, c'est là où on s'est le plus réjoui de ce football. Parce qu'au-delà des résultats, il y avait surtout de la manière. Et Neymar, pour moi, avait écrasé de sa classe le championnat alors qu'il sortait d'une Coupe du Monde un peu compliquée. Et qu'Mbappé a profité un peu aussi quelque part de la blessure de Neymar pour exploser aux yeux de tout le monde comme un peu la star du championnat. Mais voilà, Mbappé, moi, ce qui m'a le plus intéressé en fait sur son match, c'est ses propos d'après-match en fait, quand il a dit qu'il voulait s'inscrire dans le projet du Parisien et en rejetant le Real Madrid.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, il va rester. Hein. On l'écoute justement clair et drôle au micro hier de nos confrères de Canal+.
Je suis ici, voilà, je m'inscris dans le projet. Après, voilà, tant mieux pour le Real Madrid, c'est à Zizou, je regarderai les matchs en tant qu'admirateur.
il regardera les matchs à la télé. Bon, ben ça, au moins, c'est rassurant. On souligne souvent la maturité, mais la maturité, c'est aussi ce recul, ce deuxième degré, cette aisance, parce qu'on est tout de suite dans l'après-match. Combien de fois reproche-t-on aux joueurs d'avoir rien d'autre à nous dire, l'essentiel, c'est d'avoir pris les trois points et tout ça avec lui. C'est différent aussi dans ce discours-là, tout de suite.
Oui, c'est étonnant, après-match. Il n'a pas fait un documentaire pour nous annoncer qu'il restait au PSG, c'est déjà bien. On a gagné du temps.
Effectivement.
Il n'a pas pris de carton jaune pour aller assister à un match de NBA.
Non plus. Non plus.
C'est pas bien ce que vous faites.
Non mais voilà, c'est déjà une bonne nouvelle pour le PSG, même si faut toujours se méfier hein, quand le Real Madrid se place et visiblement il y a un contact hebdomadaire.
Si Zizou l'appelle et lui dit viens.
Non mais visiblement il y a un contact hebdomadaire entre certaines personnes du Real Madrid et Mbappé. Donc le contact est quand même établi et pas rompu, et que l'été sera long, mais voilà, c'est une bonne nouvelle de l'entendre dire ça. Et
il peut pas, même dans ce football circus phénoménal d'aujourd'hui, il peut pas dire ça aujourd'hui et se barrer dans deux mois.
Je pense pas, sincèrement, c'est quelqu'un qui fait très attention à l'image et le clan également, le père veille au grain. Et alors je suis pas en train de dire que vis-à-vis de Neymar c'est pas la même chose, mais je pense pas qu'il annonce comme ça vouloir rester au PSG et se barrer dans un mois. Par contre,
c'est la deuxième fois, hein, il l'avait déjà dit.
Ouais,
après
par
l'élimination,
contre, les contacts qui existent avec le Real sont bien réels, et après ça peut déboucher sur un transfert d'ici un an, mais sur la saison qui arrive, je pense qu'il va rester, et même Neymar d'ailleurs.
David,
on évoquait Patator tout à l'heure parce que ce sont les joueurs un peu spéciaux qui laissent quelque chose dans l'histoire du foot. Et Mbappé, à mon avis, s'il est spécial, s'il continue à devenir spécial et à être un joueur qui continue de se développer, ça sera peut-être pas uniquement sur son jeu rapide et doué à la fois, peut-être aussi sur le personnage à côté, parce que Jean-Pierre Papin, c'était les ciseaux retournés ou les papinades, les bicyclettes et d'autres aussi comme ça.
Mais lui,
il a peut-être quelque chose de plus qui est intéressant
ce que
aussi
tu
pour
dis,
il
ce
a
que
une
tu
pointe
dis,
de
vrai.
Vitesse quand ça même
d'accord,
qui est
mais exceptionnelle qu'on a revu hier, 38 km/h, il y a des séquences, malheureusement ça ne se termine pas par un but, mais par un poteau à un moment où il dépose littéralement, il part avec 4 ou 5 mètres de retard et il a 3 mètres d'avance,
ce que
20
tu
mètres
dis,
plus loin.
Ce que tu dis David, c'est intéressant parce que ce qui fait aussi qu'Mbappé est Mbappé, c'est que c'est celui dont le rendement est au niveau de l'image. Et là, on va faire un comparatif avec Neymar. C'est que Neymar, alors ok, il y a des blessures, il y a tout ça, mais on attendait de lui beaucoup plus compte tenu du talent qui est le sien, qui est présupposé être le sien. Et au final, on est sur notre fin par rapport à l'image qui est. Et ce qui fait qu'Mbappé,
on a vu deux demi-saisons. Hein,
voilà. Oui, ce qui fait aussi qu'Mbappé et Mbappé, c'est que son niveau, son rendement est au niveau de son image, un peu à la Ibrahimovic qui avait une image de type comme ça un peu froid, mais lui il claquait des buts. Aujourd'hui, si vous faites un parallèle par exemple avec Buffon qui arrive auréolé d'un titre peut-être de meilleur gardien de l'histoire, mais dont la saison au PSG restera pas dans les annales.
Non.
Donc voilà, c'est aussi ça se joue aussi à ça. Pourquoi il y en a un qui va rester dans l'histoire et pas l'autre? Bah parce que le rendement est symétrique à l'image. Peut-être que quand Neymar partira, on se rappellera juste de l'image.
Alors justement, l'autre bonne nouvelle dans une soirée quasi anecdotique, on l'a dit, tant ce 8e titre était promis depuis août dernier, hein, finalement. Le retour de Neymar, une mi-temps, alors il n'est pas à 100%, mais bon, 90 jours plus tard, il était temps, on a senti que le Parc des Princes était content de le revoir. Voilà, c'est de bon augure avant le vrai rendez-vous important de cette fin de saison. Il n'en reste plus qu'un pour le Paris Saint-Germain, c'est samedi face à Rennes en finale de la Coupe de France. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que ce sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'RFI. Hugo Moissonnier, qui sera aux commandes de l'émission demain, et Thomas de Saint-Léger, ça c'est de la promo.
Incroyable ce timing quand même, hein, qu'ils reviennent coïncidence le jour où le PSG est sacré officiellement.
Ça y est, encore un complotiste.
Non, mais moi ça m'étonne toujours. Mais non,
il
mais c'est très bien.
Notre-Dame
c'est
lundi dernier.
C'est très bien, mais il arrive après que la fête soit finie quasiment. Neymar, c'est ça qui est dommage. Après le bal, quoi. On voulait le voir en Ligue des Champions, on voulait le voir face à Manchester, on voulait le voir porter cette équipe plus loin qu'elle ne va depuis des saisons et des saisons. Et voilà, donc on va être frustré, on va le voir peut-être en finale de Coupe de France Et encore, est-ce qu'il est prêt déjà à débuter ce match? On n'en sait rien. En espérant,
s'il a joué une mi-temps hier, c'est sans doute quand même dans la perspective de le mettre titulaire.
On faut espérer, on ne sait jamais que Neymar. Il n'est pas à l'abri d'une rechute.
Il n'y a pas l'anniversaire de sa sœur,
déjà, c'est passé. Mais il y a la Copa América surtout. Pour lui, dans sa tête, c'est plus la Copa América que la Coupe de France, je pense.
Il est revenu pour la marque, il est revenu pour l'image, il est revenu pour la pub, il n'est pas revenu pour le jeu. La saison, elle est pliée dans un sens et dans l'autre. Donc, de toute façon, pour retrouver un Neymar opérationnel dans le jeu avec des objectifs et là où on pourra juger, mesurer ce qu'il apporte et ce qu'il apporte pas, c'est l'année prochaine. Là, en fin de saison, c'est que ça va être du spectacle, de la représentation.
Alors, quid de Cavani? Il est entré, lui, à 20 minutes de la fin, sous les hurrahs. Il a été chanté, acclamé, mais boudé, clairement, dans le jeu par ses coéquipiers. C'est en tout cas l'avis d'un de nos consultants, vous le connaissez tous, Eric Rabesandratana. Et on en a parlé hier, avant de descendre en zone d'interview. On écoute son point de vue.
C'est vrai que c'est les champions et puis c'est tout. Alors, même si la prestation de Kylian Mbappé a rassuré un petit peu tout le monde, et puis la présence de Marquinhos, Verratti, Mbappé change complètement la donne avec cette équipe. Alors c'est une ossature qui est importante, mais on sait qu'il va falloir construire tout autour de cette ossature, avec forcément les Neymar et les Di Maria. Alors Cavani, je sais pas encore, parce que vu la physionomie de ce match, je pense qu'il prend pas de plaisir du tout ici, parce qu'on ne joue pas avec lui. Dani Alves, Mbappé et Neymar ne jouent pas du tout avec Cavani. C'est une catastrophe. J'ai mal au cœur pour lui, parce que je me dis c'est pas possible de le traiter comme ça.
Est-ce que vous partagez la tristesse d'Eric Rabesandratana au sujet de Cavani? Le constat.
Oui, d'abord le constat est juste, et puis surtout c'est quelque chose qu'on partage et qu'on remarque depuis longtemps, parce qu'on n'a pas attendu qu'il revienne hier pour se rendre compte. C'était comme ça déjà un peu l'année dernière, plus cette année. Alors bon, comme Neymar a été blessé au mois de janvier, on va dire qu'il a joué un petit peu plus avec les autres, mais oui, on sent que Détroit, c'est celui qui est le moins recherché, le moins en vue. Je pense également qu'il prend pas de plaisir, qu'il est malheureux, clairement, à Paris, et que pour la suite de sa carrière, et sportive et humaine, il faudrait qu'il s'en aille.
Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire on remplace le tueur, le matador Cavani par qui? Qui est au niveau de Cavani aujourd'hui?
Parce qu'on vient pas de parler d'Mbappé.
Non mais un attaquant comme... Oui mais il faut le remplacer quand même.
On vient pas de parler d'Mbappé là, il y a deux minutes.
Mbappé peut pas jouer dans l'axe.
Si Mbappé se blesse, c'est pas Choupo-Moting qui va
assurer. La saison elle est finie, Bruno, on en parle plus.
Peu importe, mais il faut Cavani... donc il faudra le remplacer. Parce que s'il part Cavani, il va falloir le remplacer. Un joueur de ce calibre là, même si c'est pas dans le même profil... C'est combien? Ça coûte combien un joueur comme ça?
Mais tu vas vendre au minimum Draxler,
tu vas vendre d'autres joueurs. Cavani, tu vas le vendre combien?
Cavani, selon les demandes, il a 32 ans, il lui reste un an de contrat aux alentours de 30-40, tu peux le vendre. Et puis Mbappé peut jouer dans l'axe. Aujourd'hui, le problème c'est pas de remplacer Cavani dans l'axe, parce que t'as Mbappé. Après, ça c'est trouver un joueur de côté.
Il faut un attaquant, il faut forcément retrouver un attaquant.
Tu peux retrouver un attaquant, mais quand t'as Mbappé avec ses statistiques là, 20 ans, et quand tu vois à quel point il est très fort dans l'axe, on nous dit que c'est qu'un joueur de côté. Le positionnement numériquement, poste pour poste, Cavani peut s'en aller, on a Mbappé en pointe, c'est fini. Ouais, après, il faut trouver un joueur de côté.
Ça n'a pas suffi en 8e de finale de Ligue des Champions, quand il n'y avait pas Neymar et Cavani.
C'est ça. Ouais, ça n'a pas suffi, mais en même temps, est-ce que Cavani, s'il avait joué, Paris serait qualifié? Tu sais pas.
Non, on sait pas, mais.
Voilà. Non, mais il a rendu beaucoup de services. On sera triste, nous, ici, de le voir partir, Edinson Cavani, et j'ai l'impression que le Parc des Princes sera triste. Il y a un gros, gros capital sympathie autour de lui, même chez nos confrères, et puis, on l'a senti hier au Parc. Il est le seul. Quand Neymar rentre, il y a des applaudissements, mais il n'y a pas de chanson. Quand Cavani rentre, ça chante.
C'est le meilleur buteur du club.
C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Puis c'est un personnage à part, atypique. Ouais. Il moule le maillot et c'est quelqu'un qui se bat. Lui, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas ça. Et parfois à Paris, on a pu se poser la question sur certains joueurs, mais pas Cavani. Et des joueurs comme ça, ils sont aimés de leur public, c'est évident.
Il y a beaucoup de championnats ou de clubs dans lesquels il serait, malgré l'âge que vient d'indiquer Naïm,
32 ans,
il serait indéboulonnable.
Bien sûr.
Si l'Atlético se sépare de Diego Costa, tu peux tout à fait voir Cavani arriver là-bas.
C'est le profil parfait pour eux.
Tu peux imaginer un retour en Italie, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont chercher un attaquant dans les mois, dans les semaines qui arrivent. Donc oui, Cavani, il va pas faire. Alors après, il faut voir ce que lui veut faire, mais je serais surpris de le voir finir en Inde ou au Qatar. Il a encore un gros contrat devant lui, c'est sûr.
Il faut voir qui aussi pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Ça dépendra aussi de la manne financière dont ils vont disposer.
Exactement.
Oui, en tout cas, Olivier, il n'arrête pas de répéter semaine après semaine qu'il lui reste un an de contrat.
Mais c'est peut-être le moment de le faire partir.
Je pense que le PSG va s'éviter un nouvel épisode Rabiot, à mon avis.
La seule ombre au tableau hier, mais pas des moindres, c'est Verratti qui a vu sa cheville tourner. On n'a pas beaucoup d'informations sur tout ça, mais ce serait ballot qu'il ne puisse pas faire la fin de saison. Voilà un rouage essentiel. C'est ce que disait Eric Rabesandratana. Il disait Marquinhos, Verratti, Mbappé, c'est quand même l'ossature, en tout cas la colonne vertébrale du Paris de la saison prochaine.
Oui, J'ai tendance à dire oui, parce que je vois pas Verratti s'en aller. En tout cas, c'est pas dans les plans.
Avec Neymar,
oui, bien sûr. Oui, c'est pas dans les plans des dirigeants parisiens de se séparer de Verratti. Après, oui, voilà.
À la limite, il est blessé, il va se reposer cette fin de saison.
À condition de jouer. Hein.
Pourra peut-être sortir un peu le soir, il sort pas beaucoup.
Ouais. Le nombre de fois où Verratti a été blessé, n'a pas été opérationnel dans les grands rendez-vous.
Oui, mais après, c'est un problème avec Verratti, c'est que, voilà, Olivier fait allusion à son hygiène de vie. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours très sérieux, très professionnel. C'est vrai qu'il a une grande part de responsabilité là-dedans. Après, je suis pas d'accord avec certains consultants, certains journalistes qui pensent que Verratti doit s'en aller parce qu'il a pas la personnalité qu'il faut. Un Verratti en forme, quand on connaît le football, on sait ce qu'il peut apporter sur un terrain et ce qui change. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Et une fois de plus, sans être supporter du PSG ou quoi que ce soit, on a quand même envie de voir Verratti se remettre vite de sa blessure pour jouer la finale de Coupe de France, qui est le dernier match vraiment de la saison, et puis pour la saison prochaine.
Mais ça serait bien qu'il apprenne un peu de ses erreurs, quand même. Ouais. Qu'il arrête d'harceler les arbitres, qu'il arrête de prendre des jaunes, qu'il le suspend au match d'après, qui sont précieux, importants.
Qu'il arrête de parler, quoi, finalement.
Qu'il arrête de parler.
Qu'il joue. Ouais. Ou qu'il parle avec ses pieds.
Ouais. Oui, ce qu'il sait très bien faire, d'ailleurs.
On terminera cette page Ligue 1 par l'hommage quand même rendu à Notre-Dame de Paris. Il y avait cette grande banderole dans une tribune, qui était suspendue, qui était à huis clos pour un usage de fumigène lors de la venue de Marseille. Les maillots floqués, pour les joueurs. Ils s'appelaient tous Notre-Dame hier, c'était pratique pour commenter. Et puis, il y avait donc le dessin de Notre-Dame sur le torse. 1000 ont été mis à la vente. 1000 de ces maillots ont été mis à la vente. Alors, a priori, on ne sait pas bien si c'est pour la reconstruction ou au profit des pompiers de Paris. Sachez que c'était mis à la vente à la mi-temps et qu'à la fin du match, il y en avait 750 vendus, c'est-à-dire la totalité de ceux qui avaient été mis à la vente sur Internet. Les 250 autres étaient en vente à partir de ce matin à la boutique du PSG. Alors ils se disent, d'après ce qu'on a cru apprendre en zone mixte, en zone d'interview, qu'ils en feraient 1000 autres. C'est la moindre des choses, non, finalement?
C'est bien de voir
2000, 3000, 4000, 5000, ils partiront. Il paraît que ça part beaucoup de l'étranger. Bon.
Oui, la ville lumière.
Ouais, mais c'est bien que le monde du foot aussi se mobilise pour ça, parce qu'il y a des personnalités et des noms qui peuvent permettre de générer de l'argent, oui, après.
Vous êtes sorti dubitatif aussi,
moi. Je comprends pas trop le mélange des gens, même si c'est la ville de Paris, je vois pas trop le rapport entre le
PSG. C'est que de la solidarité, tu sais.
Je crois rien n'est obligatoire, on est bien d'accord, il n'y a pas de jugement, je dis simplement, je souligne l'initiative, et puis ça prouve que ça marche. Les 750 000 en vente étaient vendus en 45 minutes. Il paraît qu'il y en avait même déjà sur le bon coin. Des petits gars qui ont acheté puis qui étaient prêts à revendre.
Il y a toujours des collectionneurs, voilà, ça fera plaisir aux collectionneurs. Après le reste, je vois pas le rapport entre les deux événements. Et je comprends pas ce que le football vient faire là-dedans, même si c'est très bien que le PSG participe. Mais on avait déjà parlé il y a quelques jours, la Ligue et la Fédé, je vois absolument pas le rapport. Et voilà, c'est un mélange des gens, moi, qui me surprend un peu.
Eh bien, mettez idée que dans quelques secondes, vous verrez tout à fait le rapport de ce dont on va parler. With the corner. J'adore. C'est galassant. Ah ouais. Non, mais vraiment, oui. Cette manière de commenter. C'est la première ligue, vous l'avez compris. What a game, serait-on tenté de dire, parce que c'est un régal quand même, semaine après semaine, d'avoir ce duel extraordinaire. On ne s'en lasse pas. City-Liverpool. Pourvu que ça dure, Bruno Constant. Pourvu que ça dure jusqu'à la dernière journée, qu'il y ait du suspense, que on va parler de mercredi de ce derby de Manchester. S'ils pouvaient être accrochés les Citizens et qu'on soit comme ça au mano à mano, à la différence de but jusqu'à la fin, ce serait énorme.
Ce qu'a montré United à Everton, ils ne donnent pas trop confiance sur le fait qu'ils vont accrocher les Citizens.
J'essaye de vendre.
Mais oui, je pense que ça va jouer de toute façon à la dernière journée et il reste plus beaucoup d'obstacles aux deux équipes.
Non.
On est un petit peu inquiet malgré tout pour Liverpool, mais on sait jamais, il y a des rencontres qu'on n'attend pas, il peut se passer des choses, il est imprévisible ce champion d'Angleterre. Et honnêtement, et c'est même pas moi qui le dis, mais tous les anciens joueurs qui ont participé à des courses au titre, comme Martin Keown avec Arsenal, comme Jamie Carragher, etc., ils disent tous qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une course au titre avec deux équipes d'un tel niveau. Et on parle d'un tel niveau de performance. Du suspense, il y en a déjà eu. On se souvient en 2012, ça joue avec Agüero, dernière journée, etc. Mais deux équipes d'un tel niveau, c'est juste exceptionnel.
C'est simple. Pour la première fois de l'histoire, tu peux avoir deux équipes à plus de 90 points. Tout simplement. Ce qui est monstrueux.
Voire plus de 95 points. Plus de 95 points, ça peut.
En Angleterre, le capital sympathie va où? Liverpool?
Non.
Non,
non, non, non, non.
Chez nous, on a envie de voir Liverpool.
Tout le monde a envie de voir Liverpool chuter, sauf évidemment Liverpool. Ouais, ouais, ah Liverpool ouais est un peu mal aimé en Angleterre.
Pourtant, les parvenus, c'est les autres.
Ouais, je sais, mais c'est bon, on peut pas dire que tout le monde supporte United, hein, mais tout le monde supporte Manchester City. Mais non, non, Liverpool est un club un peu mal aimé en Angleterre. Et en dehors des frontières anglaises, là, par contre, effectivement, tout le monde rêve de voir Liverpool rapporter le titre 29 ans après. 29 ans. C'est ce qui voilà, c'est il y a un romantisme avec Liverpool en dehors des frontières, à l'intérieur un peu moins, même si c'est exceptionnel ce qu'ils font et moi je le cache pas, j'ai bien envie de puis pour ce que réalise Klopp, pour ce que toute cette équipe montre journée après journée, il y a autant City est un peu dans le calcul, il y a vraiment une qualité technique exceptionnelle, un projet de jeu avec Guardiola, autant Liverpool, c'est vraiment dans l'émotion quoi, ils forcent un peu les choses. Avec le cœur, avec leur trip, et il y a beaucoup de joueurs qui sortent un peu de nulle part, comme Milner, comme Anderson.
Revient Fabinho, d'où revient voilà, Naby Keita, Divo Origi.
C'est extraordinaire ce groupe.
Ouais. Des histoires de fous. Liverpool, c'est des histoires de fous. Et c'est peut-être aussi ce qui tranche avec City, qui a un effectif pléthorique, des joueurs très chers, très bankable, très forts, hein, c'est pas le problème. Mais Liverpool, ça dégage quand même un truc cette saison, et en plus, tu regardes la physionomie des matchs, ils ont toujours le petit truc qui fait que ça penche en leur faveur. Toujours.
Et que des joueurs qui vont nous régaler en juin à la CAN, évidemment. Ouais. Ça, j'étais obligé de le placer. Deux points d'avance, en tout cas, pour les Reds. Un match de plus à jouer pour les Citizens. Ça change tout. Il suffit qu'ils les gagnent tous. Et ils seront champions. Il y a un derby, on l'a dit, qui pourrait coûter cher. United City, on va reparler de United. Jürgen Klopp, lui, en tout cas, il sait qu'il y a ce derby. Il espère que ça pourrait contrarier les plans de City. Mais avec Desi, bah, il se mettrait le titre dans la poche.
On verra le résultat du match de mercredi. Même si on n'a pas d'influence directe sur cette partie, nous aurons d'autres matchs à jouer. Si United gagne un point, et si nous gagnons à Huddersfield, et puis si nous allons à Newcastle après le match de Barcelone, ça fait beaucoup de si. Nous devons juste rester concentrés sur les parties les unes après les autres. C'est ce qui nous a réussi jusqu'à présent et je ne vois pas pourquoi on devrait changer cela.
C'est vrai qu'il y a un capital sympathie aussi pour ce club, qui date pas d'hier. Hein.
Même si c'est pas un ange, attention. Ouais. Hein. Malgré son sourire, il faut
s'en méfier.
Ouais, faut s'en méfier. C'est un peu bon. Mais non, mais c'est fantastique ce qu'il réalise et il a remonté cette équipe de Liverpool, ce club à un niveau exceptionnel. Quoi. Finale de Ligue des Champions l'année dernière.
Demi-finale cette année. Qui ne rêve pas et n'a pas déjà autour de cette table, mais parmi ceux qui nous écoutent, il y a deux demi-finales. On a envie de voir les deux. Mais quand même, Barça-Liverpool. Ouais. Barça-Liverpool, on sait tout ce qu'on fait ce soir-là. Ouais. On est devant la télé, même si on est loin.
Bien sûr. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait avec Liverpool et un tel niveau de régularité aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes, mais là, c'est juste exceptionnel.
Il a battu le record de points de l'histoire du club.
Ouais,
invaincu à domicile depuis, c'était 2017, c'est Crystal Palace, je crois, la dernière équipe qui va gagner à Liverpool, c'est en 2017. Il fait une finale de Ligue Europa en 2015. Il fait quand même des trucs monstrueux, Jürgen Klopp. Hein. Alors après, c'est pas toujours très beau à voir. Hein. Là, cette année, ça joue bien, il y a des buts, il y a des machins. Il n'y a pas certains matchs qui étaient un peu cracra à regarder. Mais ce qu'il fait, c'est monstrueux.
Alors, il y a les deux, là, City et Liverpool. Et puis, alors, la concurrence est reléguée à 20 points. Je sais pas si ça arrive très souvent, ça. Le fameux top 4, 5, 6, là. Enfin, bref, ils sont forts derrière.
Six, hein, oui.
Voilà, dans le top 6, il y a le top 2, puis il y a le top 4 derrière.
Non, mais le top 4, les 4 suivants sont intéressants. La lutte pour les 3e et 4e place, c'est aussi.
Mais ils sont à 20 points. Ouais. Mais Tottenham a perdu à City, Arsenal chez lui contre Crystal Palace. United perd à Everton. 4-0, vous êtes régalé hier soir à tweeter, hier tout l'après-midi d'ailleurs, hein, ce gars-là a tweeté toutes les 5 minutes. Non,
mais
je sais.
Non, mais on se régale, moi je me régale avec ce spectacle. Et
Chelsea joue ce soir face à Burnley, on peut pas dire qu'ils aient perdu.
Non, mais
encore,
cette lutte pour les 3e et 4e places, c'est juste exceptionnel. Il y a 4 équipes encore en 3 ou 4 points.
Et quand il y a une qui paume, on se dit tiens, 3 points. Et Arsenal avait un énorme coup à jouer hier.
Ah bah oui, voilà, ouais.
À domicile face à Crystal Palace, et boum, il paume 3-2.
Quand tu sais que tu peux avoir 2 finales européennes 100% anglaises. Ouais. Que tu peux avoir
Chelsea-Arsenal
en Ligue Europa. Alors, si les équipes qui gagnent, si les équipes anglaises gagnent les Coupes d'Europe et qu'elles sont hors du top 6, elles intègrent la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'une équipe comme United, qui par exemple finit 4e, si Chelsea ou Arsenal gagnent la Ligue Europa et que Tottenham se casse la figure et gagne la Ligue des Champions, United ne jouera pas la Ligue des Champions. C'est-à-dire que cette fin de saison est folle, absolument folle.
L'Europa League, c'est devenu la 5e place du championnat d'Angleterre maintenant. C'est un peu le rattrapage pour essayer d'accrocher avec des champions, si on n'est pas dedans. Et Chelsea et Arsenal sont un peu dans ce cas-là.
Ils ont une configuration assez favorable.
Ouais, bon. Même s'il faut se méfier de Francfort et de Valenciennes. Mais Arsenal a bon profil pour aller au bout, je trouve. Ouais.
Dans les quatre là, qui va être troisième et quatrième, qui va être qualifié directement pour la Ligue des Champions d'après vous?
Je pense que Tottenham a fait une très bonne affaire ce week-end, alors qu'ils ont perdu à City et on savait que ça allait être compliqué après leur exploit en Ligue des Champions.
Ouais, leur chance c'est que tous les autres ont perdu.
Mais
aussi.
Voilà, et je pense qu'ils sont bien malgré l'absence de Kane. Je pense qu'ils sont bien. Après évidemment il y aura le poids de la demi-finale de Ligue des Champions.
Ouais, mais comme pour Liverpool, on l'a pas dit, mais dans la course pour le titre, c'est sûr que Liverpool. Ouais. Aussi.
Et derrière, franchement, c'est l'incertitude. Je pense que United est quand même mal barré, parce qu'il y a quand même ce Manchester Derby. Et ça va jouer entre Chelsea et Arsenal, je pense. Et là, les deux équipes sont quand même très irrégulières cette saison. C'est difficile à dire, hein. Franchement, c'est.
L'histoire, la belle histoire avec Solskjaer, c'est fini à United. Hein. C'est quoi? On en est à 7 défaites sur les 8 ou 9 derniers matchs?
6 défaites sur les 8 derniers matchs.
Ouais. Et non,
hier, c'est Everton. Everton, c'est Liverpool, c'est le voisin.
Elle est loin d'être terminée, hein, parce qu'avec les supporters défendent Solskjaer, et les supporters sont unanimes, c'est les joueurs qui sont responsables, c'est la direction qui est responsable, des joueurs qui ne mouillent pas le maillot, qui ne courent pas. Il y avait une stat hallucinante à la mi-temps de Everton-Man United. Everton avait couru 4 km de plus que leurs adversaires. C'est juste inimaginable en première ligue. Et on a des joueurs qui ne pensent qu'à leur avenir personnel. On pourrait en citer quelques-uns, comme Pogba, comme De Gea, comme d'autres. Et qui ne se
tous ceux-là vont partir.
Et qui ne se battent plus pour l'avenir du club.
En fait, on a l'impression que la qualification contre le PSG, en fait, ça a été l'événement phare de la saison. Le truc pour dire, regardez, moi je suis là,
mais
je vais
partir. Mais qui les a plombés totalement derrière.
Oui, parce que derrière, il y a 6 défaites. Donc, c'est les joueurs. Alors, je dis pas qu'ils sont entièrement responsables, que Solskjaer n'a pas une petite part de responsabilité. Il est quand même entraîneur aussi. Hein. C'est lui qui fait les coachings, c'est lui qui fait les équipes. Mais c'est surtout, en fait, on a retrouvé le même problème qu'avec Mourinho. C'est un problème dans les têtes. C'est surtout ça. Dans le jeu, une équipe qui fait 10 ou 11 victoires de rang depuis Cardiff en championnat peut pas subitement tout perdre avec quasiment les mêmes joueurs. Donc c'est un problème psychologique.
On se souvient qu'il n'a pas été épargné par les blessures lui aussi. Hein. On rappelle que lors de l'élimination du PSG, c'est l'équipe B, voire l'équipe C. Donc ça peut jouer. Lui aussi a un fort capital sympathie, Solskjaer.
Il est défendu par les supporters et ils sont en accord tous pour la même conclusion, c'est qu'il faut faire le ménage dans cet effectif. Il faut retrouver des joueurs qui illustrent un peu, qui portent un peu les valeurs de ce club de United, qui sont pas forcément des grandes stars, mais des joueurs qui mouillent le maillot, qui se battent, qui ne lâchent rien. Et ces joueurs ont trop tendance à lâcher depuis plusieurs années. Hein. Mourinho avait dit certaines choses qui aujourd'hui s'avèrent vraies. Donc c'était Mourinho, on pouvait en douter, mais il avait pointé des défaillances dans cette équipe qui sont vraies, et c'est terrible. Et on le voit, le plus bel exemple pour moi, ça reste encore Pogba, qui disparaît dans certains grands matchs, comme contre le PSG, contre Barcelone. On peut le défendre comme on veut, hein, mais malgré tout, c'est ça. Et aujourd'hui, les supporters sont même à en venir. Ils aimeraient voir finalement Pogba partir. Si le Real Madrid met 150 millions d'euros sur la table, mais allez-y, ils sont même prêts à payer son billet pour qu'il y aille à Madrid. On en est là aujourd'hui avec Pogba.
C'est sans doute ce qui va se faire. Hein.
Oui, mais ils ne seront pas tristes à Manchester.
Arsenal a perdu le match qu'il fallait pas perdre hier, ça risque d'être compliqué. Alors que il y a quelques jours on disait Unai Emery fait une super saison dans la foulée d'Arsène Wenger, formidable.
Il fait une super saison, pas exagérer, il fait une très bonne saison. Emery. Ouais. Après c'est compliqué aussi de jouer sur tous les tableaux quand t'as un effectif comme ça, quand derrière t'es quand même un peu ric-rac.
Ils ont le sixième effectif de Première Ligue.
Ouais.
Donc ils sont déjà
une place. S'ils arrivent à faire quatrième, déjà, c'est quand même très très bien.
Ce qui est dommage, c'est qu'on disait dans leur fin de saison, ils avaient un gros problème, c'est leur match à l'extérieur, où ils ont un bilan catastrophique. Ils ont le 15e bilan, je crois, de Première Ligue. Et manque de chance pour eux, ils se font taper match à domicile face à Crystal Palace. Donc c'est juste pas possible. Ils pouvaient pas se permettre de perdre ce match-là. Mais malgré tout, ils sont encore là. Tout est encore possible pour Arsenal.
Ils sont
grâce
là,
à l'irrégularité des autres, encore une fois.
Ils sont encore là et Unai Emery, pour lui, c'est l'Europa League. Hein. Il avait déjà gagné avec Séville. Je pense qu'il est focus là-dessus. Il vient d'éliminer Naples.
Et il a gagné trois fois avec
ça. Et on se demande même s'ils n'ont pas plus de chances de gagner l'Europa League que de finir dans le top 4.
Ils sont dans le top 4, hein. Ils sont quatrième. Oui. On l'a dit, Chelsea joue ce soir, mais Chelsea a un match. Ils auront un match de plus ce soir, au compteur. Et dans tout ça, c'est qui le meilleur en première ligue? Le trophée du meilleur joueur. On a la shortlist qui a été dévoilée ce week-end. Ils sont 6. Aguero, Bernardo Silva, Raheem Sterling, 3 Citizens, Virgil van Dijk de Liverpool, Eden Hazard de Chelsea et bien sûr Sadio Mané, l'attaquant sénégalais des Reds. Logique.
Oui, en tout cas vu d'Angleterre, il n'y a pas le moindre scandale. Je sais que l'absence de Mohamed Salah a fait beaucoup parler.
Eh oui.
Mais en Angleterre, pas tellement. Parce
Nabil
que...
Jelit, si jamais il nous écoute, on le salue. Bien sûr, on pense à lui très fort. Je crois qu'il a tweeté 44 fois sur le sujet depuis hier soir.
Non, mais pour moi, il n'y a pas de scandale, parce que Salah, il a vraiment débuté sa saison il y a quelques semaines, ou quelques mois, même s'il fait plutôt une bonne saison, hein, ses stats sont bonnes. Dans le jeu, un peu moins flamboyant que la saison passée, mais c'est surtout que les six qui sont devant lui sont juste exceptionnels. Bernardo Silva, on en parle très peu, mais dans le jeu, il est juste, c'est peut-être le meilleur Citizen.
Ouais, c'est vrai.
Et Guardiola le met dans son 11, quoi qu'il arrive. C'est pour lui, c'est le meilleur joueur. Sterling a des stats exceptionnelles aussi, il a énormément progressé. Mané, pour moi, mériterait d'avoir le trophée. C'est sans doute le meilleur joueur de Liverpool. Même si j'espère que Van Dijk l'aura, ouais. Parce que pour une fois, un défenseur,
je le mérite. J'avoue que j'ai un fait pour Van Dijk.
Oui, mais non, nous.
C'est dur, hein.
Les gars, on est RFI, nous.
Il y a du monde, hein.
c'est très bien. Voilà, je rappelle les fondamentaux, hein. Sadio Mané, nous, on est, voilà.
Et Eden Hazard, c'est le joueur le plus décisif, si on s'intéresse aux statistiques, même si ça dit pas tout.
C'est Agüero, le maillon faible de cette
saison. Oui, c'est là où il pourrait y avoir débat, mais Agüero, il a marqué des buts très importants et non, c'est vraiment une très bonne saison pour Agüero.
Si on s'en tient aux chiffres, Eden Hazard, c'est 16 buts et si on compte les passes décisives, ça fait 28 en tout. Et Sergio Agüero, c'est 27 en comptant les buts et les passes décisives. Donc, selon les chiffres, ça pourrait être Eden Hazard. Et franchement, dans le jeu, il n'y a pas photo. Je pense que sur les ailiers, les attaquants, il paraît quand même encore un peu au-dessus de Sadio Mané, non ?
Non, pas sur cette saison. Très irrégulier, Eden Hazard.
Ouais, voilà, c'est ça. Il a eu des bonnes performances.
Pas tout résumer,
mais il a aussi des performances en dedans. Et Chelsea, il fait pas une grande saison, alors que Mané, il est juste exceptionnel. Hein. Et
c'est, ça, en fait.
C'est celui qui a le plus progressé à Liverpool. Et aujourd'hui, je pense que sans Sadio Mané, je suis pas sûr que Liverpool serait là.
Bah, sur 2019, c'est lui qui fait tout. En fait, si vous prenez sur le trio, on dit toujours Salah, Mané, Firmino, c'est lui qui fait tout en 2019.
Et en Coupe d'Europe aussi.
En Coupe d'Europe.
Ouais. Largement.
À Munich, c'est lui qui marque à tous les matchs. Hein. Il marque à tous les matchs quasiment. Donc, oui, après, bon, là, je vais pas tourner ma veste. J'ai un petit faible pour Van Dijk. Pas uniquement parce que c'est un défenseur, mais parce que je pense que sur la régularité, c'est celui qui, du mois d'août au mois de mai, quasiment au mois de mai, le meilleur.
C'est lui qui a transformé Liverpool en une bonne équipe du top 4, un vrai candidat au titre, depuis qu'il est arrivé en janvier dernier 2018.
Nous, RFI, on prend tout, mais on voudrait surtout qu'il soit quand même en grande forme en juin. Toujours la même chose, hein, notre CAM, nous, c'est la CAM. Et donc, on peut pas dire que le Mondial, l'année dernière, il a été en grande forme. Il était sans doute rincé par une saison déjà monumentale, avec finale de Ligue des Champions. On espère qu'il sera plus en forme. Sur ce petit donc débat, ces petites joutes, Salah n'y est pas, Mané y est, les stats des deux, Tom Rossi, ça donne quoi ?
C'est très très proche. Sur cette saison, Mané, 33 matchs en première ligue, 18 buts. Salah, c'est 35 matchs, 19 buts. Mais Salah, la saison dernière, les chiffres étaient incroyables. C'était 36 matchs, 32 buts. Donc on s'est habitué à quelque chose d'incroyable.
Est-ce que la saison dernière était vraiment, elle était tellement exceptionnelle que c'est difficile, quoi, à part Schürrle en 95 qui fait 34 buts, il n'y avait personne qui avait marqué autant. Donc cette saison-là, elle était extraordinaire. Là, elle est peut-être revenue à un niveau plus normal. Moi, j'écoute ce qu'on dit, c'est pas un scandale en Angleterre. Mm-hmm. Et puis Agüero fait un peu maillon faible quand on est à 19 buts quand même en première ligue. Quand tu vois le niveau de la première ligue, ces deux-là, qu'ils soient dedans ou pas dedans, que ce soit.
Il y a Pierre-Emerick Aubameyang hein, qui est parmi les meilleurs buteurs et qui n'est pas dans cette liste. Ouais.
Ils sont trois.
Le Gabonais, hein. On a des Américains en première ligue qui sont juste au sommet du sommet.
C'est pour ça qu'en première ligue, les stats, c'est une chose, mais le plus important, c'est quand même les performances, la régularité des performances.
L'influence dans le jeu.
Et l'influence dans le jeu, forcément.
Bon, donc ça vous convient cette liste, elle est logique, rien de scandaleux, on connaîtra le verdict, c'est quand ?
Le 28 avril.
Dimanche.
Donc dimanche prochain,
voilà. Bah dimanche là, ouais.
Ce qui est un peu dommage parce qu'on ne sera pas le champion et...
Ça aurait pu jouer en plus.
Forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des joueurs, il y a deux joueurs de Liverpool et trois joueurs de City, et on sait l'influence que peuvent avoir les joueurs, leurs coéquipiers. Ah ouais. Mais on peut penser que Van Dijk, par exemple, dit avoir voté ou pourrait voter pour Sterling, donc un adversaire. Il trouve que c'est le meilleur joueur du championnat. Donc c'est pour ça, il y a pas mal d'incertitudes quand même. Je crois qu'on n'a jamais eu une liste aussi riche et une incertitude sur le nom du vainqueur.
Salah l'année dernière, Mahrez il y a deux ans.
Mahrez il y a deux ans. Kanté celle d'avant et Mahrez avant encore. Ouais.
Il est là, le continent.
Oui,
il est là, le continent, c'est tout. C'est là qu'on joue au foot, c'est pas ailleurs. On joue aussi au foot en Allemagne avec le colossal football.
17 clubs are determined.
We are Bayern, we want to be in the first position always.
To dethrone the champions.
Bayern München have rewritten the record books.
But now,
a new campaign is going in the Bundesliga.
Und der ist schnell und behält die Übersicht und macht das Ding 2-3 aus Düsseldorfer Sicht. Dodi Luke Bacchio.
Avec tout ce qu'il a bossé aujourd'hui, Laurent Salerno, il n'a pas eu le temps de faire la chasse aux œufs. Donc les auditeurs, vous êtes gentils, vous envoyez des colis, 80 rue Camille Desmoulins, Salerno, ici les Moulineaux, c'est simple. Il aura bien mérité, parce que là, quand
là,
même,
y a de la qualité.
Cette virgule-là, c'est un régal. Ah, avec cet accent français, we want to be in a first position. Énorme. C'était pas Arsène Wenger, mais pas loin, son fils peut-être. Vous l'avez compris, c'est la chasse au Bayern Munich. C'est l'autre mano à mano de folie dans cette fin de saison.
Ouais.
Et c'est la Bundesliga, donc c'est forcément bien. Le duel Bayern-Dortmund, un point. 4 journées, et là, pas de C1 pour fatiguer l'un ou l'autre. Hein. Ils sont tous les deux éliminés en Ligue des Champions.
Oui.
Ça s'annonce dingo.
Ah oui, parce que Bruno parlait de souligner l'incertitude avec le scénario en Grande-Bretagne. L'Allemagne, là, ça se pose là. Moi, c'est chaque semaine, semaine, on se dit, bon, alors il y a un petit avantage pour là, parce que psychologiquement, c'est plus fort. Et puis derrière, la réaction immédiate, ce week-end, Dortmund, qui avait 4 points de retard, 3 points à combler parce qu'il jouait 24 heures après. Grosse réaction avec tous les attaquants qui se remettent à jouer une symphonie avec Jadon Sancho, avec Marco Reus, avec Götze. Tout ça, ça marque et ça fait 4-0. Alors que le Bayern s'était imposé difficilement la veille.
Ouais.
Moi, j'ai bien du mal à vous dire. Le Bayern, du haut de ses 29 titres dans l'histoire, est sûr d'être titré. C'est faux. C'est faux parce que Dortmund a montré des réactions.
On les poussait.
Oui,
presque perdu. Hein. Il y a eu une passe terrible. Alors qu'ils ont marché sur ce championnat. On est passé de plus 9 à moins 1 en quelques semaines. Hein. C'est ça le différentiel de points.
Mais c'est vrai que la gifle contre le Bayern, on s'est dit ça y est, ils vont prendre un gros coup sur la tête. Ils vont jamais s'en remettre. Et derrière, ils rebondissent quoi.
Avec des calendriers qui vont encore nous occasionner des surprises. Vous parliez tout à l'heure du derby à Manchester. Il y a un sacré derby là dans la Ruhr qui se projette dans quelques jours entre Schalke et Dortmund. Alors bien sûr que Schalke est complètement à la rue cette saison et qu'ils sont incapables.
Tom Rossi, je voulais vous rappeler un petit truc.
C'est pas une fausse publicité. Hein.
Ouais. en début de saison, attention à Schalke, le Schalke de Tedesco, c'est plus trop le cas.
On a des bandes.
Deuxième l'année dernière.
Non, mais c'est tout, Monsieur Lortolari.
Ouais, mais ils ont été incapables de remettre le disque. La phase B n'a pas fonctionné, c'était rayé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Non, mais... bah depuis, il a été viré, Tedesco.
En plus.
Non, mais ça souligne quand même un truc. Ce que tu dis, c'est qu'une équipe aujourd'hui sortie du Bayern et de Dortmund en Bundesliga, une équipe qui fait une grosse saison, n'arrive pas à enchaîner l'année qui suit. Et là, ça renvoie à un autre débat, évidemment, que la course au titre, mais un jour, il faudra en parler de ça. Non, mais cette fin de saison en Allemagne, elle est évidemment passionnante. On parlait du calendrier. Il va quand même y avoir pour le Bayern, Leipzig. Leipzig et Francfort sur les deux dernières journées. Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Il y a peut-être un truc aussi qui va peser, c'est le mercato, parce que tout en début d'émission, non, c'était avant l'émission, on parlait des Français qui vont arriver au Bayern. Il y a quand même pas mal de mecs qui jouent leur avenir sur cette fin de saison et des cadres au Bayern. Ça aussi, selon ce qui se passe en interne, comment ça se goupille pour certains cas, ça peut peser. J'ai l'impression qu'à Dortmund, il y a ceux qui vont partir parce qu'ils vont ramener beaucoup d'argent. Mais que globalement, on a déjà une idée précise de ce que sera l'effectif. En tout cas, ceux qui vont rester et ceux qui vont partir, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de conflit en interne. Je dirais pas la même chose du Bayern Munich. Il y a 2-3 cas qui, à mon avis, posent déjà problème et qui vont en poser encore plus sur les semaines à venir. Ça va peut-être aussi se jouer là-dessus à la performance individuelle.
Qui?
Thomas Müller.
James Rodriguez, Boateng.
Voilà, ce genre de joueur, par exemple.
Mais le problème, c'est avec leur entraîneur, Thomas Müller, c'était des conflits avec Kovac aussi, non, David?
Thomas Müller, c'est des conflits avec tout le monde.
Mais c'est vrai. Je crois maintenant que ce sont des conflits avec tout le monde.
Il y a eu Ancelotti, il y a eu Guardiola, il y a eu tout le monde.
Oui, parce que aussi, on va pas s'éterniser aujourd'hui sur Müller, mais aussi parce que c'est une espèce de charpente pour l'équipe du Bayern depuis maintenant des années. C'est-à-dire que c'est plus qu'un symbole. C'est un symbole bavarois, mais c'est aussi un joueur qui, quoi qu'on en dise, et vous parliez tout à l'heure de la différence entre des statistiques et des performances sur le terrain, quoi qu'on en dise, cet homme-là peut vous faire, quelque chose qui vous fait tourner un match. Moi, je continue à être convaincu par ce joueur. Mais oui, il y a plus de turbulence au Bayern aussi parce que Kovac, il est soutenu par l'un de ses présidents, moins par l'autre. Il a eu à affronter des turbulences avec ses joueurs. Il a réussi à faire quelque chose de très important, c'est-à-dire écrabouiller le Borussia Dortmund. C'est aussi grâce à lui parce que il a remotivé ses joueurs. C'est une chose, mais derrière, on lui a pas donné de job garantie, comme on dit en Allemagne, pour la suite. Et oui, il y a plus de turbulences autour du Bayern qu'autour du Dortmund, qui lui s'inscrit dans du moyen terme. Voilà, construire une équipe, continuer à travailler avec les bons joueurs qui y sont actuellement et qui devraient rester pour la plupart.
C'est étonnant parce que la victoire face à Dortmund et le fait qu'ils passent devant eux aurait dû les renforcer, aurait dû consolider tout ça. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours comme avant, en fait.
c'est fragile.
Il y a peut-être une différence quand même entre le traitement médiatique qui lui sera toujours turbulent parce qu'il y a énormément de médias à Munich, il y a énormément, on cherche toujours la petite chose, le petit truc qui pourrait créer des petits soucis aussi du buzz. Il y a peut-être un décalage quand même effectivement, Bruno, entre cette turbulence-là et la réalité en interne. Le Bayern sait aussi se fixer des priorités et la victoire en championnat reste toujours dans ce club très traditionnel une priorité quand même.
Moi j'ai quand même une question, tu me dis si je me trompe, j'ai quand même l'impression qu'au Bayern ils ont été tellement habitués à avoir des entraîneurs de très grand standing.
Oui, c'est ça.
Du Penkes, du Ancelotti, du Guardiola, que arriver à Kovac qui fait un travail il est leader du championnat d'Allemagne, il est encore engagé en Coupe d'Allemagne, il peut faire un doublé cette année.
Il a la meilleure attaque, une bonne défense.
Il peut faire un doublé, voilà. J'ai l'impression que ce qui fait de lui, ce qui donne l'image d'une erreur de casting, c'est qu'en fait médiatiquement, il pèse quand même beaucoup moins que ses prédécesseurs. J'ai l'impression qu'il paye un peu ça à son corps défendant.
Oui, c'est pas encore devenu un personnage de théâtre Kovac effectivement.
Il va rester.
Oui.
Oui, il va rester. Robben Ribéry, c'est fini.
Oui, au Bayern c'est terminé, on veut leur faire un grand faste autour de leur départ ou de leur fin de carrière, départ pour Ribéry s'il devait faire une pige encore d'une année à l'étranger, fin de carrière certitude pour Robben désormais. Oui, c'est de là changement d'air, changement d'époque, mais on a déjà enclenché la suite puisque Serge Gnabry pendant cité 15, c'est fort, hein.
Hummels va rester, on aime tant Mats Hummels, si sympathique en zone d'interview, qui donne beaucoup. Il est plus en équipe d'Allemagne mais il va rester au Bayern. Il y a le petit Kimmich aussi.
Oui, mais ça aussi, ça fait un décalage entre ce club qui a toujours fourni 4, 5, 6, 7, 8 internationaux instantanés entre qui jouaient en championnat au Bayern et qui jouaient en même temps en équipe d'Allemagne. C'est un peu différent en ce moment. Et oui, ceux qu'on a cités devraient rester, effectivement.
Un mot rapide, Lucien Favre a une bonne tête de perdant magnifique. Ouais. On aime tellement ce qu'il fait et ce qu'il prône, mais en même temps, il ne gagne pas.
Oui, mais bon, après, un entraîneur doit franchir un cap. Lui, il a pas comme un Mourinho. Enfin, non, Mourinho, il vient de plus bas, mais comme un Guardiola, il a pas eu tout de suite une Mercedes entre les mains, Lucien Favre. Il a fait ses preuves à Berlin, il a fait ses preuves à Gladbach. Maintenant, il lui faut un titre avec Dortmund pour peut-être oublier ses propres peurs aussi, parce que des fois, il nous donne l'impression aussi dans sa communication que il se sentait pas surpuissant et que il y a peut-être un palier personnel à franchir aussi pour lui pour être vraiment un vainqueur.
Un mot encore, je ne sais pas si vous avez été à l'écoute des RFI samedi soir, mon cher David Lortolari, vous auriez dû. Mondial Sport, le Bayern s'implante en Afrique, vous saviez ça, en Éthiopie. On a entendu un très bon reportage samedi soir donc de Vincent Dublanche, notre correspondant du côté d'Addis Abeba. Un reportage à réécouter ou à lire sur la page africfoot.rfi.fr. C'est la création d'un centre de formation. Le Bayern qui était déjà présent en Chine et aux États-Unis, qui s'implante en Éthiopie. Et qui va franco.
Oui, c'est des investissements qui ne m'étonnent absolument pas. On a aussi beaucoup investi en Allemagne sur un centre de formation complètement rénové, très 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 moderne. Et c'est une politique qui me paraît aller à la fois dans le sens d'une internationalisation, ça c'est une chose, c'est le marketing, c'est avancer sur différents continents, mais surtout aussi avant tout le sportif et retrouver des pépites comme le fameux Samy Kufur qui a eu pendant des années son drapeau dans les tribunes du Bayern alors qu'il était parti depuis longtemps.
Jérémy également.
Oui, Jérémy Djitap.
Oui.
C'est marrant que vous parliez de Jérémy Djitap parce que on va terminer là-dessus. On a lu ça sur les réseaux sociaux, peut-être vous aussi. Donc une pensée amicale aux joueurs de New Stars au Cameroun. C'est un club de Douala, vainqueur de la Coupe nationale en 2017, donc pas un petit club, hein. Eh bien sachez que pour avoir perdu contre le TKC samedi à Yaoundé, eh bien les joueurs de ce club ont été abandonnés par leurs dirigeants à plus de 300 kilomètres de chez eux. C'est la FIFPro, donc le syndicat des joueurs professionnels en Afrique, qui tweete là-dessus et qui dénonce un comportement inhumain, pitoyable, inqualifiable. Ben nous aussi, on le dénonce, ce comportement, c'est nul, et ça ne doit pas se produire. On a le droit de perdre en sport, et on n'a pas le droit d'abandonner des joueurs à 300 kilomètres. Il y a peut-être une prime de transport à récupérer du côté des dirigeants. Eh bien, honte à eux. Demain, on l'a dit, toujours pas la dame. Elle cherche les œufs et les chats ont du mal. Donc elle reviendra mercredi. C'est Hugo Moissonnier qui sera là, parce que lui, il a déjà tout bébé. Hugo Moissonnier qui parlera bien sûr du titre de la Juve, entre autres de Ronaldo, de Benzema, bref, un programme de folie.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.